Un beau jour, dans les rues de Toulouse, je rencontre une dame qui s'appelait Juliette Dissel, qui a été certainement la première comédienne en occitan, en Languedoc, vraiment professionnelle. Elle ne faisait que ça. Elle vivait de ça. Et moi, je la connaissais parce que elle était venue pour des fêtes organisée par les Rouergas à Rodez, à Villefranche, etc. Et elle, inversement, elle avait fait venir les troupes de mon père. Je me souviens, on avait déjà participé à une émission enregistrée, je ne me souviens plus pourquoi, à la Chambre de commerce. Ça, pourquoi cette émission était enregistrée là, je ne saurais pas te le dire. Et alors, elle savait que je chantais, donc elle m'avait entendu chanter, elle savait que je jouais à la comédie. Elle m'a dit « Oh, que je suis content de vous trouver ». Je suis en train de monter une troupe, le Théâtre Doc, et vous pourriez venir. Ah, oh, tu parles. Avec plaisir. Et alors là, elle me dit, vous savez, vous y allez, on n'est pas nombreux, hein, mais vous aurez deux bons copains. Il y a Francou, qui est employé à la Banque Courtois, qui est un joli ténor, et vous avez un garçon qui s'appelle Dominique. Alors celui-là, il a un talent comique, vous savez, irrésistible. Et c'est comme ça, donc, tu vois, comme je te dis que tout. Et alors, du fait qu'on ait commencé avec ce théâtre d'or, de donner des trucs, on a donné on allait tout. Au départ, ça a fonctionné, c'était elle qui s'occupait de ça, nous, au départ. Elle était en cheville un peu avec les anciens combattants, tu sais, les gens. On allait donner tous les dimanches, tous les samedis, tous les dimanches, rien que ces fins de semaine, des spectacles, au profit des colis pour les prisonniers. Alors ça nous a fait déjà balader un peu partout aux quatre coins de la région, et puis à Toulouse même. Et alors là, il y avait des gens qui m'avaient entendu. Alors c'est comme ça que je me trouve un pied à la radio. D'ailleurs, le dimanche, souvent, on y allait aussi à Radio Toulouse. C'était l'abbé Salva qui avait une émission, et il nous demandait de venir lui donner un coup de main. Et même, quelquefois, on y chantait, on y faisait autre chose, c'était des causeries. Parce que moi, il m'a fait faire des tas de causeries. Je me souviens, je les ai retrouvées aussi, tu sais. « Coussi pregabun, triscot, coussi cantabun, coussi... » La vie, autrefois. Et alors, alors là, ça me met un pied à la radio, où on me demande de venir tous les 15 jours faire une émission de chant, de chant du folklore. Voilà, tu vois, et ça vous... Bon, et alors ensuite, alors là, c'est une autre aventure, c'est pire, c'est du même style que l'école de pilotage de Meknès, à la caserne Pérignon. Alors là, je vais te raconter une histoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se flatter de ce que je vais te dire. Je reçois un coup de téléphone à la caserne Pérignon. Mouly, c'est pour vous. Bon, alors. Ici, Madame Bourguignon, directrice du Théâtre du Capitole. Ah. Je vous ai entendu chanter. J'aurais besoin de vous. Venez me voir. Bon, j'y vais. Et alors, quand j'arrive, elle me dit, tenez, elle me sort, il y avait un bouquin comme ça. Voilà, ça c'est la partition de l'opéra de Joseph Canteloube, Le Mas. Nous devons créer ça dans un mois. Et il faut que vous me chantiez le rôle du grand-père. Là. Alors pareil, assez flatté, la première impression, plutôt. Mais quand même, conscient de la difficulté, et d'ailleurs... N'ayant pas une idée exacte de la difficulté, je lui ai dit, écoutez, madame, je suis très flatté. Et vous savez, je ne vous cache pas, ça me tente beaucoup ce que vous me dites. Parce que mais il s'agit de savoir si je suis fichu de le chanter. Je n'ai jamais pris une leçon de chant. Et je n'ai jamais chanté avec un orchestre, moi. Alors, mais si, je vous ai entendu chanter. Bon, alors, écoutez, je lui ai dit, moi, je vous demande 48 heures, hein. Je vous donne ma réponse. Et je vais voir la brave femme qui nous accompagnait au Théâtre Doc, là, Marguerite, nous l'appelions. Et avec ça, et je lui dis, Marguerite, voilà ce qu'on me propose. Ah, par exemple. Bon, alors, je voudrais bien que nous regardions ensemble et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on part. Et on passe, et on a toutes les pages, de page en page. Et quand c'est fini, elle me dit, Charles, en toute sincérité, je vous vois mal en train de chanter ça dans un mois. Ils ont donné le truc. Alors, bon, un peu déçu. Je vais rapporter mon truc à Madame Bourguignon. Elle me dit, ah, non, vous ne me le rendez pas, vous le chanterez. Il dit, non, madame, écoutez, je ne suis pas sûr de moi, alors je lui explique, je n'ai jamais pris le chant de chant, je n'ai jamais chanté. Mais elle m'a dit, vous êtes un chanteur d'instinct. Je suis sûr que ça ira. Mais vous vous rendez compte, il dit, dans un mois, toi, mais je vous mettrai 3 répétitions par jour, s'il faut, 3 heures de répétition, vous le chantez. Et je l'ai chanté, mon vieux. Alors ça a été, écoute, je ne sais pas si les quelques types qui étaient avec nous, avoir chanté un opéra en occitan au Capitole, ben, tu m'en chercheras d'autres. D'ailleurs, ça n'a pas eu de lendemain.
Ah oui.
Non, ça n'a pas eu de lendemain. Et ça a été juste là. Bon, je ne sais pas comment ça s'était fait, ça. Alors ça, tu vois, je n'ai jamais su comment Madame Bourguignon avait été... C'était une époque, tu sais, on parlait beaucoup de régionalisme. C'était dans l'air. C'était Vichy, ça,
Ah oui. Le
régionalisme. Et je pense que c'est les gens du CRU. Il y avait Canteloube qui était ici, il était de la région. Canteloube était du Quercy. Oui. On a dit, ben, c'est peut-être une occasion de jouer ça. Et alors, à la base, le livret était en français. Et c'est l'abbé Salva, c'est Chanoine Salva qui l'a mis en occitan. Alors, donc, c'est une expérience assez piquante, voilà. Alors, tu vois, le chant, nous y voilà toujours. D'ailleurs, c'était très beau, hein. C'était très beau, ce truc-là. Et alors, l'explication est la suivante. C'est qu'elle trouvait personne pour lui chanter ça en occitan. Elle n'avait personne. Il y avait d'autres rôles épisodiques. Il y avait trois rôles, disons, un peu plus étoffés où il fallait vraiment que... C'était eux qui étaient marquants. Et elle avait réussi à trouver un garçon qui était une belle voix de ténor, Loup, il s'appelait Gérard Loup, qui n'a pas fait carrière après. Il a chanté ça avec nous. Et puis une fille, alors là, ça aussi. Quand on est dans le pittoresque, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Elle s'appelait... Attends, maintenant... Son prénom m'échappe. Robert, elle s'appelait, et au bout de Robert, d'une grande famille de la région de Castres, des filles de grands industriels de Castres. Elle venait en répétition avec une hispano conduite par un chauffeur. Elle venait vraiment pour le plaisir de chanter. Alors elle et Madame Bourguignon l'avaient connue parce qu'il y avait une chorale qui s'appelait la Charles Borde, très huppée, qui faisait d'ailleurs de l'excellent travail. Elle l'avait entendu chanter là, et elle chantait, elle était capable de chanter en Languedoc. Alors voilà comment on était amené des chansons à Compoliva sur la scène du Capitole. D'ailleurs, là, au Capitole, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'y chanter, c'était un régal. Et puis d'autres fois, j'ai failli d'ailleurs faire la carrière, du coup. J'ai failli faire cette carrière, la carrière lyrique. Ça a tenu ça aussi en poil de barbe. Si on avait été dans une époque plus stable et plus régulière, il est probable que maintenant tu connaîtrais Charles Moulin de l'opéra. Bon, mais... Parce que, écoute, c'est amusant, hein, on faut bien qu'on s'amuse un peu. Bon, donc, à l'époque là où je répétais le Mas de Canteloup, au Théâtre du Capitole, donc, en même temps, j'étais chargé d'organiser un gala, on appelait ça le gala des ailes, c'était au profit des services sociaux de l'armée de l'air. Alors, on avait la salle du Capitole et il fallait monter un programme, Et s'occuper des gens qui allaient paraître en ce programme. Et c'était moi qui en étais chargé. On avait la musique de l'air, déjà, qui faisait une base solide, qui était réfugiée à Toulouse. Et puis, bon, alors, on me dit, il faut que il faut écrire à André Pernet, voilà son adresse, il était à Toulouse, rue Paul Mériel. Tu écris à André Pernet, qui est un grand, très grand de l'opéra, qui avait fait un film juste avant la guerre avec Georges Till et puis Grace Moore, je ne sais pas quoi, l'américaine là. Donc, un grand, grand bonhomme, c'est l'année. Bon, alors tu lui écris, et c'est un ancien, il était officier de réserve de l'armée de l'air, il a fait la guerre de 14 comme officier de l'armée de l'air, et il ne refuse jamais, et il vient gratuitement. Donc, alors j'avais écrit un mot à ce fameux Pernet, et j'attendais sa réponse. Mais il était parti en tournée du côté de Bordeaux, Marseille, je ne sais pas quoi, parce qu'il fallait bien qu'il croûte, il s'était replié à Toulouse. Lui n'avait plus jamais voulu chanter à Paris ni à l'opéra. Tant que les Allemands seront là, je n'irai pas. Bon, et alors, il rentre au bout de 10 jours et il essaie de prendre contact avec moi. Et chaque fois qu'il téléphonait à la caserne de Perignan, l'aspirant Mouly, ah non, il n'est pas là. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit, ce zèbre qui n'est jamais à la caserne. Attends, alors, il tombe quand même sur un type plus futé ou plus mieux renseigné qui dit, mais l'aspirant Mouly, vous l'avez en train de répéter au théâtre du Capitole. Alors là, on perd les... Alors moi, j'étais en pleine répétition avec une brave dame qui vient au piano, et tout d'un coup, je vois une porte qui s'ouvre, et je vois ce bon André Pernet, il mesurait 1,95 m, tu vois, une... Et je lui dis, c'est toi l'aspirant Mouly? Et oui. Et tu chantes par-dessus le marché. De l'air de dire, par-dessus le marché. Mais alors là aussi, tu vois, je te dis, c'est fantastique ces choses-là. Alors il me dit, fini, alors on finit la répétition, et puis on part. Il me dit, mais tu chantes, toi? Et puis oui, je lui dis, je lui explique. Mais tu as une voix, il me dit, tu sais, écoute, viens avec moi, il faut tirer ça au clair. Il m'amène chez sa pianiste à Didré, si on peut dire, et il me dit, tu n'as rien en français? Oh si, j'ai des trucs en français. Bon, eh bien, chante-moi en français. Et ben voilà. Et puis alors, en partant, il me dit, bah, écoute, si tu veux faire cette carrière, tu peux. Mais je te préviens, tu en as pour 10 ans avant de boulot et de gagner. Et à ce moment-là, bon, j'avais envisagé, mais pas seulement, mais j'étais démobilisé un premier coup, j'étais remobilisé, j'étais relâché à 27 ans, 28 ans. Mais bon, ça a mené où? Alors, je n'ai pas donné suite, quoi. Mais ça m'a valu d'avoir l'amitié de cet homme, qui m'avait pris vraiment même une affection, il aurait pu être mon père, et jusqu'à la fin. Alors, tu vois, comme de chanter en patois, Ça fait une vie riche.
Ouais.
Bon.
Sans aucun doute.